Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdois sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi, Annick Ducomet qui est venue annoncer un événement qui va avoir lieu le 10 octobre, un mercredi à 20h au Loco Loco, un café philosophique avec Lama Nimiya qui va traiter de bouddhisme et de bouddhisme tibétain. Bonjour Annick.
Bonjour Louis.
Alors commençons par le début. Si tu as voulu organiser cet événement, c'est parce que tu avais envie de créer un buzz autour du bouddhisme tibétain ?
Non, pas exactement. On est une association qui existe depuis 2000. Et depuis 2000, on organise en lien avec mon chardon des venues d'enseignants que dans le bouddhisme tibétain on appelle lama, d'enseignants tibétains ou non tibétains, occidentaux, comme c'est le cas le prochain qui vient. Et on organise donc des stages, toujours axés sur la philosophie du bouddhisme ou la méditation. Parce qu'il y a ces deux versants dans le bouddhisme tibétain. Il faut acquérir la pratique par la méditation, mais aussi la sagesse par la connaissance de la philosophie. Donc ces deux choses, on les mène ensemble avec des stages de week-end ou, comme c'est le cas cette année en semaine, des soirées où on n'a pas envie de faire des conférences parce que c'est un peu rébarbatif. Et on pense qu'il y a des gens qui ne sont pas bouddhistes qui sont intéressés et qui ne sont pas forcément pratiquants bouddhistes. Et donc on a décidé de faire ce qu'on appelle un café philosophique avec Vincent du Loco Loco qui est partant dans cette histoire-là pour que ça soit beaucoup plus convivial et que ça soit un échange d'idées avec un enseignant compétent du bouddhisme tibétain. Je viens de un monastère à Nouvergne qui a été fondé il y a plus de 40 ans et qui forme des lamas occidentaux, donc des enseignants, avec des retraites de 3 ans. Et ces enseignants, après, font le tour des groupes à la demande et enseignent la méditation et la philosophie bouddhiste. Donc on a décidé de faire ça de manière plus conviviale. Vincent fera des petites assiettes, des boissons, voilà, sympas, que les gens peuvent prendre à la demande, il n'y a rien d'obligatoire. Et on en discutera autour de tout ça.
Ça tombe bien que tu sois là, parce que peut-être ne le sais-tu pas, mais peut-être le sais-tu, je me suis fortement intéressé au bouddhisme. J'ai pas mal pratiqué plusieurs écoles bouddhistes, voire hindouistes et voire autres. Mmh. Et donc, pour moi, le bouddhisme tibétain a toujours été un petit peu obscur. C'est un des bouddhismes que j'ai eu le plus de mal à percevoir. Alors, est-ce que ça t'ennuierait de nous faire un espèce de petit résumé de ce que tu as compris de ce bouddhisme,
ouais,
puisque
bien
tu pratiques depuis un bout de temps?
Ben oui, ça fait une vingtaine d'années, pratiquement. Oui, ben, c'est pas étonnant, c'est un peu compliqué. D'abord parce que culturellement, c'est quelque chose qui est quand même assez loin de nous. Avec toute la tradition tibétaine, quand le bouddhisme s'est installé en fait, il faut revenir à la base un peu. Tout ça, c'est les enseignements du Bouddha, il y a 2500 ans. Et ces enseignements, en fait, c'est des méthodes pour atteindre ce que le Bouddha a atteint, c'est-à-dire un état d'esprit qui est dénué de toute émotion perturbatrice et qui va vers ce qu'on appelle la sagesse qui est en nous. Pour trouver ça, comme évidemment on a des pots de saucisson sur les yeux, il faut quand même des méthodes. Et ces méthodes vont être différentes selon les sutras et les tantras, c'est-à-dire tous les enseignements bouddhistes. Et dans le sud, quand ça s'est diffusé une fois que l'Inde a été bouddhiste à une époque, et puis ensuite ça s'est diffusé vers le sud, ce qu'on appelle toutes les écoles Theravada, tout ça.
Le Hinayana, le petit véhicule.
Voilà, qui est le véhicule, disons, oui. On
traditionnel.
Ça petit... Non, même pas. Tout est traditionnel.
Originel.
Tout est originel. Le Bouddha a enseigné d'abord le petit véhicule, ensuite le grand. Et oui, il a enseigné le Theravada, puis le Mahayana et le Tantrayana. Il y a 3 véhicules. Et ces 3 véhicules, selon les pays, ont pris plus ou moins, selon la forme... qui s'était adapté le mieux à ces pays-là. Donc dans le sud, Cambodge, machin, Laos, tout ça, ça a été le petit véhicule. Ensuite, ça a été le Mahayana au Japon. Le Zen, c'est du Mahayana, déjà. C'est une deuxième forme, une deuxième sorte d'enseignement. Et puis au Tibet, est arrivé ces enseignements-là, qui se sont mélangés au bouddhisme tibétain. Il n'y avait pas de bouddhisme tibétain, pardon. Okay. Il y avait le Bön, qui étaient les traditions chamaniques tibétaines. Et c'est mieux adapté le Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule qu'on appelle de diamant, c'est-à-dire un troisième véhicule qui propose d'autres méthodes que le Zen et le Theravada, avec beaucoup plus de méditation axée sur des visualisations symboliques. En gros, c'est ça. Donc au Tibet, c'est ça qui s'est implanté. Et c'est ça que les Tibétains, une fois virés par les Chinois avec l'exode des Tibétains, une fois qu'ils sont arrivés en Occident, ils se sont implantés avec leur bouddhisme propre, qui est le même que le reste, parce que est inclus là-dedans tout le bouddhisme originel, comme tu dis, c'est-à-dire les sutras, c'est-à-dire tout ce qui est la base plutôt stricte et qui est basée sur l'éthique, qui est basée sur la méditation devant un mur ou autre, hein, peu importe, mais qui est de la méditation de base dans tout le bouddhisme. Et puis ils ont rajouté donc tout ce qui est bouddhisme Vajrayana, c'est-à-dire bouddhisme, on appelle ça le véhicule de diamant, et improprement on appelle ça le bouddhisme tibétain.
Alors si je peux me permettre d'être un petit peu en désaccord avec toi, ayant énormément pratiqué du bouddhisme petit véhicule, une chose est sûre, c'est que les visualisations sont proscrites. Alors je ne comprends pas, si tu me dis que le Bouddha aurait inventé les trois formes, mais que ça aurait été plus adapté à certains types de pays, ça je peux le comprendre. Mais par contre, Vipassana, puisque si je le nomme, là on ne visualise strictement rien et c'est même proscrit. Donc comment tu peux dire que Bouddha aurait pondu trois formes de bouddhisme qui auraient été plus ou moins, il a dit, pas de visualisation.
Non, il faut pas tout mélanger. Il en a pondu plus que ça. Il y a eu 84 000 sortes d'enseignements qui sont inscrits, qui sont écrits maintenant par les disciples du Bouddha. Ça a été écrit puisque lui n'a rien écrit. La première tradition Vipassana, je connais bien puisque j'ai commencé par ça, moi aussi. Donc je peux t'en parler aussi. C'est celle des sutras. Donc ça reste, chaque école après a pris ce qui lui convenait dans le bouddhisme. Ce qui convient dans Vipassana, évidemment qu'il n'y a pas de visualisation, puisque c'est les méditations sur les quatre placements de l'attention, qu'on a aussi, nous, dans le bouddhisme tibétain. On le fait aussi. Et ça s'appelle chiné. C'est exactement pareil. On fait la même chose, sauf que le support n'est pas le même. En méditation, je parle de la pratique. Si tu veux, le placement de l'attention au corps a été enseigné par le Bouddha, ça donne Vipassana. Le placement de l'attention au souffle aussi, Anapana, c'est ce qu'on appelle chiné. C'est aussi dans le bouddhisme tibétain, c'est aussi dans le Theravada, et c'est aussi dans le Zen. Tu trouves tout ça. Le développement qu'a fait le bouddhisme tibétain, ce qui est dit par les érudits, moi après, je suis incapable de te dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais je le crois, je pense que c'est vrai, vu tous les écrits qu'il y a. Il y a eu ce bouddhisme Vajrayana qui a été longtemps l'apanage d'une élite, parce que c'est compliqué. Il ne faut pas que ça soit des visualisations qui partent dans n'importe quoi. Et ensuite, c'est fait pour simplement, c'est ce qu'on appelle des moyens habiles, qui remplacent ce qu'on fait en Vipassana, si tu veux, mais qui sont exactement la même chose, puisque tu te focalises sur quelque chose, tu as l'attention à quelque chose et tu cultives la concentration, plus d'autres choses. Donc c'est particulier.
Et justement, le fait de rajouter, de complexifier cette méditation en rajoutant des visualisations sur des déités ou sur des symboles, est-ce que justement, je te donne un exemple. Normalement, Anapana, tu te concentres sur le souffle qui sort des narines et qui en rentre. Ouais. Et puis moi, à un moment, j'avais mal au ventre, donc j'ai pensé à mon ventre qui rentre et qui sort. Rien que le fait de penser à deux choses à la fois, ça devenait plus compliqué. C'est-à-dire, je devais penser à la fois à l'air qui sortait de mes narines et aussi mon ventre qui bougeait et j'arrivais plus à faire correctement le boulot. Et donc, c'est ça quand on se concentre sur plusieurs choses. Donc, est-ce que ma question est la suivante? Le fait de rajouter des visualisations, comme tu l'as dit, relativement complexes, parce qu'il ne faut pas se barrer dans n'importe quoi, est-ce que ce n'est pas justement délayer un peu un message qui deviendrait un peu trop compliqué?
Moi, je pense que non. Il y a des choses qui sont adaptées aux uns, des choses qui sont adaptées aux autres. C'est pour ça qu'il y a divers supports. On appelle ça des supports de méditation. C'est improprement traduit déité. Ce n'est pas des déités. Effectivement, puisqu'il n'y a pas de dieu dans le bouddhisme, il y a plus forte raison, il n'y a pas de déité. C'est des supports, c'est ce qu'on appelle des déités de méditation, mais ce n'est pas des déités, c'est des formes pures, on appelle ça, qui symboliquement représentent la vacuité et la sagesse de l'esprit, exactement comme toi. Quand tu te concentres sur, par exemple, le souffle en faisant un apana, en fait, tu ne fais pas deux choses en même temps. L'esprit, il est d'instant en instant. Tu ne peux pas faire deux choses en même temps, mais ça va très vite. Donc, à un moment, tu penses à ton ventre, à un moment, tu passes à ton souffle. Et tu penses que c'est ensemble. si tu arrives à vraiment petit à petit, avec des années de pratique ou je ne sais quoi, à bien dissocier les deux, tu vas voir la différence et revenir à ton support chaque fois. C'est pareil en méditation sur donc des formes pures. Tu vas visualiser ces formes pures qui représentent des qualités en fait, de l'esprit. Par exemple, on vient de faire ce week-end Chenrezig, qui est la qualité de compassion de tous les Bouddhas. Donc, on va se concentrer sur cette forme. Il n'y a pas besoin de tout voir. En même temps, tu vas penser à la cuisine que tu vas faire, tu vas penser à n'importe quelle connerie qui te passe par la tête, c'est sûr, mais tu reviens à ce support. Pour certaines personnes, par exemple, moi, quand j'ai découvert le bouddhisme tibétain, puisqu'on parle de nous, c'est beaucoup plus facile ça pour moi que de faire anapana ou de faire vipassana. C'est tout. Après, c'est un choix. Mmh. Ensuite, on se relie à une tradition, ça c'est clair, qui va nous convenir selon nos caractères. Et c'est pour ça que le bouddhisme, moi je trouve ça génial, c'est des méthodes, c'est ni une religion, ni une... enfin c'est à la fois philosophie, religion, méthode, mais surtout méthode. Méthode pour arriver à quelque chose, c'est-à-dire à notre nature de l'esprit, de chacun. Et comme il y en a 36 000, effectivement, bon, moi, celle qui m'a plu, c'est celle-là. Hein. Toi, ça va être Vipassana, d'autres, ça va être le Zen, le Theravada, il y a les moines de la forêt qui sont...
À Tournon, qui sont pas mal aussi, j'ai essayé.
Qui viennent souvent à Montchardon. Et qui sont très liés avec... Ils sont tous très liés, les bouddhistes, en fait. Pas tous, mais beaucoup, quoi. Parce qu'on est dans l'ouverture. Et voilà, ça convient à certaines personnes, à d'autres, ça convient moins bien. Et c'est ça qui est bien. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérive. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des maîtres qui continuent cette tradition-là. Que ce soit dans le Zen, que ce soit dans le Theravada, que ce soit dans Vipassana. Et c'est le cas pour tout ça, que ce soit pour les Tibétains. Voilà ce que je peux te dire.
Alors, j'ai aussi été un petit peu chez les Tibétains, donc j'ai un peu pratiqué, et je dois dire qu'il y avait quelque chose qui me chagrinait un tantinet, mais alors ça c'est comme d'habitude une question de sensibilité, c'est que c'était quand même relativement ritualiste, on répétait des rituels, et il fallait, c'est pas de la foi aveugle, je dis pas ça, mais il fallait accepter d'y aller avant de comprendre. Il y avait des trucs, on répétait des machins, etc. Il y avait des mantras, mané, pabneum. Et tout ceci est assez obscur. Et les deux méthodes que j'ai retenues, outre Vipassana, c'est aussi de l'hindouisme Azeta. Il n'y a aucun rituel, ou presque. Et on ne demande aucune foi aveugle. On ne plaque rien sur la réalité. Pas de visualisation, donc disais-je. Et surtout, c'est une introspection pure et simple, sans aucun artifice, sans encens. Sans image, sans rien. Et là, de temps en temps, dans le bouddhisme tibétain, alors qu'il y ait un usage, c'est possible, mais on demande quand même de répéter des choses qui sont en tibétain. Donc, pour savoir ce qu'ils disent derrière, c'est quand même pas si facile que ça. Donc, j'avais l'impression, et ça m'a retenu, même si je ne mettais pas en doute leur authenticité.
Ça m'a retenu,
en fait. Voilà.
Je comprends, tout à fait. Après, c'est une histoire de sensibilité. Et ensuite, on ne demande rien. Pas du tout. Mais ce qui est demandé, c'est comme dans tout le bouddhisme, c'est de faire les choses en les comprenant et donc en ayant intégré et expérimenté. Donc, par exemple, ces méditations comme Chenrezig là, dont tu parles avec son mantra, les mantras, ça, bon, c'est encore une autre histoire dont on peut parler, mais ce qu'on appelle des rituels, donc des méditations avec visualisation, on ne demande rien du tout. On te demande surtout de... Si, ce qu'on te demande, c'est d'aller aux enseignements qui explique ce que c'est, pour qu'il n'y ait justement pas d'erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un truc auquel on doit croire. C'est vraiment des choses qui sont très symboliques.
Des moyens utiles dont tu parlais.
Voilà.
Des moyens habiles.
Mais c'est des moyens pour que ceux qui ont, sont plus adaptés à ce genre d'accès, si tu veux, à leur propre esprit, puisque ça représente les qualités de ton esprit. Chenrezig, c'est toi. Ce n'est pas quelque chose que l'on plaque sur la réalité. Entre autres, pour le bouddhisme, la réalité n'est pas celle que l'on voit et n'est pas celle que l'on connaît. Donc, on ne plaque rien sur la réalité. Déjà, dans les enseignements, ce qu'on te dit tout le temps et ce que tu arrives à comprendre en le pratiquant, c'est que quand tu pratiques ce genre de méditation, c'est plutôt ça la réalité qui est perçue. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'artificiel qui est plaqué. C'est un peu compliqué à comprendre en deux mots. C'est pour ça que dans le bouddhisme tibétain, c'est important d'avoir des enseignements et c'est important de comprendre la philosophie. Tout est basé sur cette philosophie, qui est quand même une vision du monde hyper importante, où on te dit que le monde n'est pas celui que tu vois, que tu comprends, que tout est projection de toi Et que s'il y a introspection, c'est pas pour conforter ton ego.
Ni pour s'abstraire du monde.
Ni pour s'abstraire du monde du tout. Au contraire, le bouddhisme, il est vraiment dans le monde. Et c'est pas non plus pour se faire plaisir et faire une thérapie.
Ni faire du nombrilisme.
Bah oui, c'est pas du tout, au contraire. Puisque c'est pour chasser. Si on veut accéder à ce qui est vraiment notre esprit, il faut chasser cet ego qui nous embête et qui nous met des barrières. Voilà. Donc, en deux mots, c'est ça, quoi. Donc, effectivement, autour du bouddhisme tibétain, il y a tout un tas de trucs, peut-être comme dans l'hindouisme, mais qui n'a pas du tout la même... qui n'a pas le même but. Puisque dans le bouddhisme, il n'y a aucune... il n'y a pas de moi, il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'atman. C'est l'anatman, au contraire. Mais bon, tout ça, c'est philosophique, mais si tu le comprends mal, tu peux effectivement faire de ces rituels une espèce de dogme que tu fais sans comprendre ce que tu fais, en répétant n'importe quoi, et qui ne sert à rien, quoi. Ça ne peut pas faire de mal, ça ne sert à rien.
Et alors toi, depuis cette vingtaine d'années que tu pratiques le bouddhisme tibétain, tu n'as jamais été choqué justement par une ouverture d'esprit ou un dogmatisme ou un esprit doctrinaire dangereux ?
Jamais, non.
Jamais. Donc tu,
dogmatique, ouais. Non, jamais. Jamais on te demande de faire quelque chose dans le bouddhisme. Quand tu prends un maître, parce que justement on dit de pour pas faire n'importe quoi, de prendre un maître, et d'avoir un maître qui t'indique comment pratiquer dans la vie et dans la méditation. Dans la méditation, il y a tout le temps deux choses. C'est qu'on fait tout le temps, quoi qu'il arrive, que ce soit 20 ans, 40 ans, 50 ans, on a des pratiques tibétaines, comme celles dont on vient de parler, mais on a toujours ce qu'on appelle chiné, ce que tu appelles vipassana et anapana, c'est pareil. On le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on doit cultiver les deux en permanence. C'est-à-dire sur le souffle, ou le support qu'on veut, mais un support neutre, comme tu disais, ça on le cultive tout le temps, et même les Tibétains, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, on a une pratique avec visualisation, si on veut. On n'est pas obligé.
Pour développer des qualités ou...
Exactement, pour développer des qualités.
Des qualités, voilà. Des déités auxquelles tu te réfères, par exemple l'amour compatissant.
Voilà, par exemple, il y a une autre pratique qui est une autre forme, disons, le mot déité, j'aime pas ça, une autre forme qui est Sangyemenla et qui est ce qu'on appelle la pratique de médecine. Si on veut la développer, c'est ce que pratiquent pratiquement tous les thérapeutes, par exemple. Il y en a plein. Effectivement, qui sont des qualités un peu plus particulières à développer, auxquelles on s'identifie. Et en s'identifiant, on les augmente en soi. C'est un peu ça, si tu veux.
Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu étais prête à parler un peu des mantras. Alors, explique-nous un peu. Pour
des mantras, non, j'ai dit, c'est une autre question.
Est-ce que tu serais...
Ça serait mieux de demander, justement, à l'enseignant qui va venir d'en parler, parce que c'est inclus dans les pratiques tibétaines et c'est compliqué d'en parler
et
à part.
Et tu n'es peut-être pas forcément habilité à le faire.
Si, c'est pas... Il n'y a rien d'interdit.
Il n'y a pas d'interdit, par exemple.
Il n'y a aucun interdit dans les pratiques tibétaines. Il n'y a aucun dogme. Il y a des pratiques. Et les mantras représentent, si tu veux, la qualité de la visualisation. Donc, quand on récite, par exemple, tu as dit Om Mani Padmé Hum, qui est connu dans tout le monde entier, et le monde tibétain en particulier, ça représente la compassion, c'est tout. Et le son de ce mantra... c'est pas le sens, mais le son de ce mantra va représenter la compassion et va développer la compassion. Il nous aide à la développer. C'est tout ce que je peux te dire. Comme dans un autre mantra pour la pratique de médecine, ça va être pareil, ça va aider à développer cette qualité-là, de soin des êtres. Voilà. Oui, je voulais juste répondre à ça. Les pratiques en tibétain, elles sont traduites en français, mais on les récite en tibétain, ne serait-ce que parce que ça fait des milliers d'années que... c'est récité par des Tibétains et que c'est porteur d'une énergie.
Un égrégore.
Je ne sais pas ce que c'est un égrégore, mais je sais ce que c'est une énergie. Et entre autres, si c'est traduit en tibétain, le tibétain étant tellement complexe et tellement compliqué que ça va appauvrir le sens. Donc nous, on sait le sens, il est traduit pour nous et il est traduit dans les textes que l'on récite. Mais de le réciter, c'est plus quand même juste de le réciter en tibétain, en sachant le sens bien entendu. C'est pour ça qu'on a décidé ce café philosophique. C'est pour que les gens viennent discuter de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils en connaissent, des idées justes, des idées fausses, et de parler à bâton rompu avec cet enseignant qui est là et qui est prêt à le faire, quoi.
Et ce serait le premier d'une série ou ce serait...
Ça peut, si ça marche, c'est le premier d'une série. Je pense que Vincent, on n'a pas parlé de série, mais il est d'accord pour renouveler l'expérience si c'est sympa. Nous, on a des enseignants qui viennent tous les deux mois. Les enseignants qui viennent donc, sont occidentaux, donc on peut parler en français avec eux, ce qui est bien, parce qu'effectivement, ça peut être un barrage de parler en tibétain. Après, on en a un en décembre, et on peut lui demander aussi. Il viendra parler de la méditation, on peut faire des thèmes particuliers. Ouais, ça peut être sympa.
Et alors, l'association Kagyu Di qui organise cet événement, elle est active. Est-ce que le bouddhisme tibétain est bien implanté dans le Diwa ?
Dans le Diwa, il est moyennement implanté. Il est surtout implanté à Montchardon et on dépend de Montchardon, qui est dans l'Isère. On est un bon groupe, disons, de pratiquants. Et il y a pas mal de gens qui gravitent autour, qui viennent pour les enseignements et qui s'intéressent au bouddhisme. Bon, nous, ça nous suffit. Le bouddhisme ne fait absolument pas de prosélytisme, on n'en a rien à faire. C'est le choix des gens d'être bouddhiste ou d'être pas bouddhiste. En plus, les ismes.
On s'en méfie.
On s'en méfie tous, y compris les bouddhistes. C'est dit bouddhiste, mais c'est un terme. C'est en fait une pratique. C'est une pratique qui est pratique dans la vie aussi, où il y a énormément d'enseignements sur comment pratiquer dans la vie. Et ça, c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Ouais, je répondais à ta question.
Je sais que périodiquement, vous organisez vers le cerf de Barnave des stages de méditation ou des stages de philosophie, comme tu les appelles.
C'est enseignement et méditation, toujours. Donc un côté philosophique pour comprendre ce qu'on fait, un côté méditation. Voilà, on a un programme sur l'année. On s'appelle Kagyu Di parce que, je n'ai pas dit, mais dans le bouddhisme tibétain, il y a 4 grandes écoles. Celle du Dalai Lama, qui est Gelugpa, qu'on appelle les bolets jaunes, mais qui est Gelugpa. Celle du Karmapa, qui est le chef de la... Chacun a son chef hein, de lignée. Et ils n'ont rien à voir entre eux. Sauf qu'ils se voient, mais ils n'ont rien à voir entre eux pratiquement. Donc le Karmapa fait la lignée Karma Kagyu, c'est la nôtre. C'est celle qui s'est le plus implantée en France, en fait. C'est pour ça que, voilà, c'est pas un choix. C'est que c'est celle-là qui s'est présentée en France avec les réfugiés tibétains. Il y a la lignée Nyingmapa avec Sogyal Rinpoche. Voilà, aussi. Et il y a la lignée Sakya qui, elle, est restée plutôt au Tibet, qui n'est pas, qui est toute petite maintenant et qui n'est pas beaucoup venue en France. Donc il y a ces 4 lignées et nous, on est la lignée Karma Kagyu parce que notre maître spirituel est à Montchardon. Et Karma Kagyu, c'est Lama Tenzong, le vénérable Lama Tenzong. Et à la tête de la lignée, il y a le Karmapa taillé d'Orje que l'on suit. Voilà.
C'est bien que nous montrions la teneur des échanges qui pourraient avoir lieu un petit peu dans ce café. On va peut-être pas tout déflorer comme conversations.
Non, justement.
Mais c'est vrai que je te remercie de répondre avec franchise et puis sans sourciller à quelques... Parce que quelque part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse quand même. Hein. Par exemple...
Mais c'est bien d'en discuter.
Par exemple...
Ce jour-là.
Hein, ce jour-là, pas aujourd'hui
oui. C'est un peu long. Puis disons que je ne suis pas la seule à pouvoir discuter de ça. Moi, je ne suis pas enseignante, je ne suis que pratiquante, même si je suis une ancienne pratiquante. Donc c'est bien qu'il y ait des enseignants qui puissent discuter, réfuter. Et justement, c'est fait pour ça, le bouddhisme. Il y a eu énormément de discussions, de réfutations, d'écoles différentes, de petits points de vue différents. Et ça, c'est super. On n'est jamais pareil, tous. Et le bouddhisme, c'est quand même une école de tolérance, hein. Je dirais d'ouverture.
Oui, si on commence
donc
à se taper dessus.
C'est très bien si
que...
tu n'es pas d'accord. Oui. C'est parfait si tu n'es pas d'accord. Ça serait idiot que tout le monde soit d'accord. On ne demande pas aux gens d'être d'accord. Dans le bouddhisme, on demande d'expérimenter. Et si on voit que c'est vrai ce qu'on expérimente, c'est bon. Si ce n'est pas bon, il faut en discuter. Voilà.
Très bien, ben, chers auditeurs, donc vous avez bien compris que le 10 octobre, au Loco Loco, à 20h, un café philosophique organisé par l'association Kagyu Di sur le thème du bouddhisme et sa pratique et donc ses enseignements philosophiques avec le lama Nyima. Merci Annick d'être passé faire un petit préambule sur ce café philosophique.
Merci Louis.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.